Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 30 novembre 2006, sous la coupole du Palais de l'Institut de France, s'est déroulée la séance publique annuelle de l'Académie française. Chaque année, au mois de novembre, comme les autres académies de l'Institut, l'Académie française organise une séance solennelle. Canal Academy vous propose d'entendre la retransmission de cette séance publique annuelle, au cours de laquelle vous pourrez entendre le discours sur les prix littéraires par Yves Pouliquen, directeur en exercice, le discours prononcé par Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle, consacré au thème « La langue française, langue de la modernité » et le discours sur la vertu par Pierre Nora, directeur de la séance. Retrouvons à la tribune, sous la coupole, Yves Pouliquen.
Mesdames, messieurs de l'Académie, au moment de préfacer le palmarès qui va suivre, il me vient à l'esprit que seuls désormais les adultes que nous sommes reçoivent des prix. Notre Académie, liée à ses fortes traditions, les prépare en ses nombreuses sessions et les distribue en ses jours d'automne à de grandes personnes dont la valeur et les travaux, la notoriété, ont particulièrement retenu son attention. Il nous est permis de penser que les lauréats en tirent toujours quelque émotion qui, pour les plus anciens, réveille en eux de bien doux souvenirs d'enfance quand, sur les bancs de leur école, leur maître avait prononcé solennellement leur nom devant leurs parents, le maire ou le préfet, avant qu'il leur soit remis un beau livre doré sur tranche qui ne quitterait jamais plus les archives de la famille. Il nous est aussi permis de penser qu'il se peut que pour les plus jeunes des lauréats réunis en ce jour, en ce lieu prestigieux, ce soit un acte initiateur, tant il est vrai qu'il a paru convenable aux éducateurs de notre temps de ne plus ostensiblement récompenser les plus brillants de leurs élèves. Il se peut alors que notre noble compagnie éveille en chacun d'eux la satisfaction que tout palmarès engendre, celle-là dont leur enfance fut privée. Faut-il croire qu'ils ont raison, ceux qui refusent de critiquer, de juger, de noter, de comparer, de distinguer, lorsque sont distribués à des adultes méritants près de 2000 prix chaque année en France? Ce chiffre, à lui seul, semblerait conforter l'idée qu'il n'est pas indifférent dans une société telle que la nôtre de distinguer les plus généreux d'entre eux dans la mesure où ils lui font le don de leur savoir, de leurs compétences, de leur génie. Notre Académie, dès son origine et dans ses traditions littéraires, sut en souligner le profit. C'est ainsi qu'au fil des ans, elle est parvenue à distribuer chaque année plus de 60 prix qui, ce nous semble, trouvent quelques faveurs dans le public. C'est ainsi qu'elle exige aussi de la part de ses membres un travail dont on méconnaît l'importance et dont il nous plaît de rappeler qu'il reste résolument indifférent aux pressions dont on a sorti habituellement la désignation des prix littéraires. Ce qui n'élimine en rien les joutes internes qui restent le secret de la salle 4 où se réunissent les différentes commissions qui soumettent au vote de l'Assemblée plénière les noms des candidats qu'elles auront sélectionnés afin que celle-ci en désigne le lauréat. Le choix des œuvres littéraires peut ainsi résulter de l'estime légitime portée à un écrivain confirmé, mais tout aussi bien, comme celui du Grand Prix du roman par exemple, traduire un coup de cœur partagé pour l'œuvre d'un jeune auteur qui nous était jusqu'alors inconnu. La longue liste des lauréats de ce Grand Prix du roman qui fut créé en 1904 en témoigne éloquemment. Nous allons procéder présentement à la lecture du palmarès. Sa longueur exige une certaine discipline dans nos applaudissements. Convenons ensemble que seul le lauréat du Grand Prix de la francophonie voudra bien s'approcher de la tribune pour recevoir son prix, bien sûr, sous nos ovations. Les 29 autres titulaires de prix de l'Académie se lèveront à leur place au prononcé de leur nom, et seront salués individuellement. Après quoi, nous vous prions de réserver à la fin de la lecture du palmarès la salve d'applaudissements destinée à l'ensemble des autres lauréats cités. Le Grand Prix de la francophonie a été décerné cette année à M. Roland Mortier, de nationalité belge, né à Gand et professeur à l'Université de Bruxelles, émérite depuis 1985 après avoir tenu les chaires des universités catholiques de Louvain et dont la grande réputation lui valut d'être associé aux enseignements de nombreuses universités étrangères, dont les nôtres, celles de Montpellier, de Paris-Sorbonne, mais aussi les universités européennes et celles des États-Unis. Vice-président de l'Institut des hautes études de Belgique, il fut président, ou il l'est encore, de nombreuses sociétés et de comités consacrés au XVIIIe siècle à ces grands écrivains tels Diderot, Voltaire, dont il parraine la diffusion des œuvres complètes. Il est docteur honoris causa des universités de Montpellier, de Göttingen et Jérusalem. Il reçut de nombreux prix, parmi lesquels le prix Francky, le plus important prix scientifique décerné en Belgique, le prix Montaigne, le prix Couson, décerné par l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, dont il est membre depuis 1969, de même que d'académies étrangères. Nous nous félicitons de son appartenance à notre Académie des sciences morales et politiques. L'œuvre du professeur Roland Mortier est pour l'essentiel consacrée au siècle des Lumières françaises et européennes. Elle est considérable. L'un de ses premiers ouvrages, La poétique des ruines en France, a été ressemblé comme un grand classique. Les livres et recueils d'articles très nombreux qu'il a publiés depuis et qui portent sur l'histoire des idées aussi bien que sur l'étude des formes ont fait de lui, comme l'affirme notre confrère Marc Fumaroli, le patron des 18e-mistes du monde entier et le vrai successeur de René Pommeau. Infatigable, Roland Mortier entreprend depuis quelques années la publication des œuvres complètes du Prince de Ligne, jusqu'ici connues seulement que par quelques écrits fragmentaires, alors que les manuscrits d'une œuvre plus vaste que l'on ne le supposait dormaient dans les archives du château de Belœil en Belgique. Son exceptionnelle implication dans la traduction qu'il fit de ce qu'il dénomme la richesse et la complexité du XVIIIe siècle européen au travers de la langue française méritait qu'il ne retrouvât ici aujourd'hui. L'Académie française a attribué cette année la médaille de la francophonie à M. Alberto Arbasino. Figure majeure des lettres italiennes d'aujourd'hui, M. Alberto Arbasino, romancier, essayiste, incarne aussi, selon notre confrère Angelo Rinaldi, l'intelligence mercurienne qui fait passer les livres d'un pays à l'autre et nous déprovincialise. La littérature française n'a pas eu de lecteur plus vigilant que ce chroniqueur, qui triomphe aussi dans les analogies entre les arts. De ses séjours parisiens, il a rapporté, à un quart de siècle de distance, deux livres de souvenirs où son ludisme de nomade a éclairé quelques-uns de nos contemporains représentatifs. Fratelli d'Italia, frère d'Italie, une allusion à l'hymne national de son pays et le roman emblématique de ce fondateur de l'avant-garde des années 70. N'hésitons pas à le considérer comme notre cousin de Rome, indulgent à nos défauts, généreux devant nos qualités, toujours passionné et prompt à déceler les idées que nous aurons demain. Le Grand Prix de littérature, Paul Morand. A été attribué à M. Jean Echenoz. En couronnant l'auteur de Ravel, le dernier roman de Jean Echenoz, dans lequel nous dit notre confrère Pierre-Jean Rémy, la musique se conjugue à l'art du romancier pour en faire l'un des plus beaux livres, sinon le plus beau de la saison littéraire qui vient de s'achever. L'Académie française n'a pas voulu courir derrière le succès, mais bien plutôt souligner que c'est une œuvre entière d'une importance capitale dans le paysage littéraire français que l'auteur a déjà écrite avec la virtuosité d'un Raymond Queneau et d'un Georges Perec, tout en affirmant haut et fort qu'il n'a jamais écrit que ce qu'il souhaitait lire. Il se trouve que ce qu'Eschnoz a envie de lire, c'est aussi ce que nous aimons lire. Le Grand Prix de littérature Henri Gall est un prix de l'Institut créé en souvenir de M. Henri Gall, qui était un amoureux des lettres et soutenu par la générosité de son exécuteur testamentaire, M. Michel Laurent. Ce prix, décerné sur proposition de l'Académie française, a été attribué cette année à M. Olivier Germain Thomas. Sans doute la qualité des émissions radiophoniques de M. Olivier Thomas Germain lui aurait-elle valu ou lui ont-elles valu quelques distinctions, mais c'est l'écrivain qu'aujourd'hui l'Académie française récompense. Elle le fait car, comme notre confrère Michel Déon nous le confie, la tentation des Indes, retour à Bénarès, sont d'admirables promenades d'un homme sensible au merveilleux et au sacré, d'un voyeur plein de pitié qui s'enrichit demain, chemin faisant autant qu'il enrichit son lecteur. Il en est de même de ces méditations mystiques de Bouddha, terre ouverte et mosaïque de feu, tout aussi bien que de ces rêveries dans les ruines de Byblos autour du livre. Olivier Germain Thomas, ajoute Michel Déon, a l'érudition légère et poétique. Il contrôle admirablement son lyrisme naturel et reste un sage délégué par l'Occident pour voir et comprendre la pensée et la philosophie de l'Orient. Le prix Jacques de Fouchier, grâce à la générosité de la Fondation BNP Paribas, est destiné à un ouvrage remarquable par son sujet, sa composition, son style et dont l'auteur n'appartient pas aux professions littéraires. Il revient à M. Paul Belaïch Daninos pour les 67 jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie. Il s'est passionné pour le personnage de Marie-Antoinette et au sort tragique qui marqua la fin de son règne. Attentif au complot qui voulait ou la sauver ou la perdre, il reconstitue sous une forme romanesque la conjuration de l'œillet. À partir d'une lecture attentive des témoignages, des archives et de sa vaste érudition, la première partie de la tragédie qui se termina comme l'on sait. Ce roman écrit avec passion et talent, écrit Madame Carrère d'Encausse, nous relate jour après jour, semaine après semaine, le calvaire de la reine, les manipulations de ses partisans et de ses adversaires, et à travers des dialogues particulièrement bienvenus, nous restitue une sorte de chronique vécue de cette histoire effroyable. Le médecin, quel auteur, s'est aussi brossé le portrait pathétique d'une femme malade et à bout de force. Le Grand Prix du roman a été décerné à M. Jonathan Little pour Les Bienveillantes. Masse impressionnante de 900 pages, l'ouvrage a été rédigé en français par son auteur américain qui s'est glissé dans la peau d'un SS du nom de Max Hao. C'est un compendium des horreurs du siècle écoulé, nous dit notre confrère Jean d'Ormesson. Défile successivement sous les yeux du lecteur terrifié les massacres des Juifs de l'Europe de l'Est, les camps de concentration et d'extermination nazis, l'atroce bataille de Stalingrad, la chute de Berlin sous les coups de l'armée rouge, l'inceste, le parricide, toutes les espèces de dépravation, toutes les furies de l'histoire et du crime, les Euménides d'Eschyle, se mêlent en un cortège d'enfer à un amour dévoyé de la musique et de la littérature. Les Bienveillantes de Little sont le monument de ce mal qui s'est déchaîné de notre temps. Le prix de l'Académie française Maurice Genevoix, fondé par Madame Maurice Genevoix, pour récompenser un ouvrage illustrant les valeurs morales et humaines qui ont guidé le secrétaire perpétuel de l'Académie, est décerné cette année à Madame Brina Svit pour Un cœur de trop. Précisons d'emblée que Madame Brina Svit est slovène et qu'elle est venue achever ses études à Paris. Son premier livre, Con Brio, n'a pas été écrit en français, mais il fut traduit en notre langue. Les suivants, par contre, elle les a écrits en français. Pour Monsieur Michel Déon, on n'y voit aucune trace d'une première langue, et même, dit-il, On y découvre une écriture si naturelle, si hardie, si embellie d'humour et de grâce, qu'on en reste profondément surpris et heureux. Voilà en même temps une romancière et une belle intelligence très humaine. Il nous reste à souhaiter, ajoute-t-il, que son agilité à écrire dans deux langues ne l'attende pas d'écrire dans une troisième, et qu'elle reste avec nous. Bel exemple de l'attraction qu'exerce encore le français pour les originaires des Balkans. Monsieur Jacques Darras, pour l'ensemble de son œuvre, se voit attribuer le Grand Prix de la poésie. Il était temps de saluer ce grand poète qui, dans un premier temps, s'est situé au nord de la littérature française en digne descendant de son ancêtre Adam de la Halle et en qualité d'enseignant à l'Université de Picardie. Des poèmes en plusieurs chants sont nés sur les rives de la Maille, petite rivière mourant dans la Manche. Des livres l'ont conduit sur les traces de l'agneau mystique de Van Eyck et par là même l'ont fait quitter le nord, mais par les îles garde l'horizon, il nous confie que c'est à la poésie et au roman anglais qu'il a emprunté l'ouverture au grand large maritime et couru au-devant des poètes américains. Pour Madame Florence Delay, Darras est avec Degui et Roubaud, un de ceux qui nous ont fait partager leur éblouissement en traduisant Ezra Pound, par exemple, dont il accompagne le déplacement vers le Moyen-Âge, ou Walt Whitman, dont il a splendidement traduit le recueil mythique Feuilles d'herbe, lequel a fait de lui Jacques Darras un poète à haute voix, celui du poème parlé marché et du roman chanté conté. Le Grand Prix de philosophie a été décerné au révérend père Roland Méné pour l'Évangile de Luc, dont notre confrère Michel Serres vante l'audace, celle qui lui a permis de quitter une fois pour toutes les cadres de la critique indo-européenne, et grecque en particulier, afin d'en lire avec un œil neuf et une particulière acuité les textes sacrés qui sont issus des cultures sémitiques. Le Grand Prix Moron récompense M. Pascal Pic pour « Nouvelle histoire de l'homme » qui retrace l'aventure humaine avec les moyens de la paléoanthropologie et qui, grâce à ses travaux et à ceux de ses collègues, nous confirme M. Michel Serres, ne nous parle plus de l'homme de la même façon. Le Grand Prix Gobert a été attribué à M. Joël Cornette pour l'histoire de la Bretagne et des Bretons et l'ensemble de son œuvre. M. Joël Cornette est l'un de nos plus grands historiens de la monarchie du XVIIe siècle. Son œuvre est monumentale. M. Marc Fumaroli précise qu'elle est d'autant plus admirable qu'il est, quittant le point de vue du centre pour celui de la périphérie, édifié un monument à l'histoire du duché de Bretagne, sur une très longue durée, depuis ses origines jusqu'à nos jours, en passant par la transformation du duché en province et de la province en département. Cette gageure est à l'origine d'un chef-d'œuvre à la fois de science et de style. Monsieur Jean-Jacques Lefrère a reçu le prix de la biographie littéraire pour son ouvrage « Jules Laforgue ». Bref fut la vie de Jules Laforgue, dont Claudel disait qu'il avait l'esprit, la gaminerie d'un elfe et le don magique de faire jaillir la poésie au sein de la conversation courante. Il est mort à 27 ans. Copieuse, documentée, soucieuse de l'arrière-plan et sa biographie, qui déjà dégage avec fermeté, nous dit notre confrère Angelo Rinaldi, du foisonnement du symbolisme, cet artiste hésitant entre Hamlet et Pierrot. Il vient, grâce au talent de son biographe, écraser sa figure contre les carreaux de notre époque qui reconnaît un jeune frère dans ses vers disloqués. Le prix de la bibliographie historique a été décerné à M. Thibaut Tellier pour Paul Reynaud, un indépendant en politique. Comment a-t-on pu croire, durant quelques années, que la biographie était un genre à proscrire, s'écrit M. Alain Decaux, en refermant le beau livre de plus de 800 pages de M. Thibaut Tellier, dans lequel il traite, à travers la vie de Paul Reynaud, toute l'histoire du XXe siècle. Étrange destin, poursuit notre confrère, que celui de cet homme, dont l'intelligence était exceptionnelle, que la nature avait doté d'autant de qualités que de possibilités, et dont l'histoire ne retiendrait peut-être que deux phrases, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, et la route du fer est coupée ». Ce qu'aucun d'entre nous, témoins de cette époque, ne pourrions lui pardonner si, Monsieur Thibaut Tellier, ne venait nous apporter les preuves qu'il fut toutefois un très grand homme politique, d'une indépendance d'esprit telle qu'il fut souvent seul à prendre des positions courageuses aux côtés du général de Gaulle, dont il fera, en l'envoyant à Londres, un héros national, et contre lui après la guerre, quand celui-ci préconisera l'élection du président de la République au suffrage universel. Tant de sources brassées par notre lauréat qui constituent un apport considérable à la compréhension de ces moments de l'histoire de notre pays. Le prix de la critique a été attribué à M. Antoine Compagnon pour « Les antimodernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes. Cet essai critique qui tente à démontrer que le courant majeur des lettres françaises depuis la Révolution résiste au fatalisme ou à l'enthousiasme du progrès, même lorsqu'il se garde de leur opposer un contre-courant régressif et obtus, ce que pense notre confrère Marc Fumaroli, qui ajoute « Les antilumières ou leur thème et leur mode d'expression de famille » pessimistes, doctrine du péché originel, noblesse, vitupération, elles ont leur phare, dont la visibilité et le génie sont éclatants, de Demestre à Barthes, le dernier d'entre eux, et entre lesquels se retrouvent Chateaubriand, Baudelaire, Renan, Blois, Péguy, Thibaudet, Binda et Gracq. Ouvrage d'un maître à tous égards qui mérite amplement ce grand prix de la critique. C'est à Monsieur Charles Danzig pour son dictionnaire égoïste de la littérature française que l'Académie a décerné le prix de l'essai. Elle a voulu souligner ainsi les mérites exceptionnels de cet ouvrage de près de 1000 pages. Avec Monsieur Félicien Marceau, remarquons que, dans son titre, le mot dictionnaire marque une volonté de réelle érudition de l'auteur auquel on prête la possibilité d'avoir lu tous les livres. Et qu'égoïste, cet adjectif, suppose un choix critique éclairé par ses préférences, ou plus exactement par la conception qu'il s'est faite de l'œuvre d'art, d'où ses jugements, ses coups d'éclat, ses malices. Un dictionnaire altruiste pourtant et généreux, parce qu'il nous rappelle que lire est un bonheur et que le livre est le meilleur ami de l'homme. À Madame Gabrielle Rollin, pour rappel à l'ordre, vient le prix de la nouvelle. Si l'on oppose, comme autrefois, à la Renaissance, l'angle aigu de l'intelligence à l'angle obtus de la mémoire, aucun doute, l'œuvre de Gabrielle Rollin, autant critique que romanesque, est à situer sous l'angle aigu. Sa vive curiosité du présent et des autres, son talent à capturer leurs secrets, à capturer par le son, le geste, l'image, ce qui en dira le plus long sur des vies banales et dures, on finit par composer en art bref un témoignage de notre temps. C'est ainsi que Madame Florence Delay s'exprime sur l'auteur dont nous couronnons aujourd'hui, Rappel à l'ordre, dont la dernière nouvelle, Le dernier chien, nous apprend que Gabrielle Rollin sait comprendre le langage des animaux avec autant de saveur que celui des hommes. Au titre des prix d'Académie, 5 médailles de vermeil ont été décernées. À M. Claude Duneton, s'il est dans la salle des lecteurs du Figaro, en entendant prononcer le nom de Claude Duneton, ils auront la puce à l'oreille pour reprendre le titre de l'un de ses livres les plus célèbres de ce chroniqueur des expressions populaires qui, plongé dans l'air du temps, en dit la vérité avec une sensibilité, une justesse de baromètre. C'est ainsi que notre confrère Angelo Rinaldi en juge. Lui qui ajoute... défenseur et accompagnateur de la langue française dans le meilleur de son évolution, qui est le bon sens, à travers ses ouvrages, s'ajoutant à ses articles, M. Duneton oppose à l'austère figure du grammairien un visage de franc jouisseur attablé au festin des mots auquel la rue et le terroir apportent des condiments au plat dans toute leur diversité. À M. Michel Grodan, pour sa traduction du roman de Xénophon de Takis Theodoropoulos, Taxis Theodoropoulos, auteur de « Nous sommes tous gréco-latins », écrit directement en français, avait reçu il y a peu une médaille de la francophonie. C'est pour la traduction de son ouvrage, le roman de Xénophon, écrit en grec cette fois, que nous récompensons Michel Grodan. C'est sur la qualité de cette traduction que s'exprime M. Michel Déon. Elle est rare à la fois par la fidélité à l'esprit de ce roman, qui fait revivre la vie et l'œuvre de Xénophon, mais aussi parce qu'elle donne à lire un français très pur qui semble calqué sur le grec démotique de l'auteur. Rarement le passage d'une langue à une autre a été aussi brillamment et savamment réussi. À M. Axel Mauger, dont le parcours est à la fois celui d'un universitaire et d'un écrivain, et dont les activités sont partagées entre le Québec et la France, auteur de très nombreux ouvrages, c'est une trentaine d'entre eux qui sont consacrés à la langue française et à la francophonie. À M. l'amiral Laurent Mérère, préfet maritime pour l'Atlantique, pour « À l'Indien », l'amiral Mérère, qui commandait l'escadre française de l'océan Indien en pleine crise internationale, a noté avec talent ses réflexions et ses rencontres dans un journal de bord particulièrement intéressant. Document sur la vie en mer, mais aussi sur les responsabilités d'un officier de haut rang. À Madame Caroline Pigozzi, pour Jean-Paul II intime. Connue pour ses portraits et ses interviews, Madame Pigozzi fait preuve d'un professionnalisme exigeant, d'un souci d'exactitude, ne sacrifiant jamais la décence au sensationnel. Ce sont ces qualités assez rares dans la presse qui lui ont valu la confiance du pape Jean-Paul II et l'entourage de ce dernier, souligne M. Maurice Druon. Autorisé à observer la vie quotidienne de ce souverain pontife, à le suivre dans certains de ses voyages, et ayant bénéficié de nombreux entretiens avec lui, elle a donné un Jean-Paul II intime qui restera comme une référence précieuse pour l'histoire de ce très grand pape. Le prix du théâtre a été décerné à M. Michel Vinavert pour l'ensemble de son œuvre. L'œuvre de Michel Vinavert détonne dans l'histoire du théâtre contemporain. Né de parents originaires de Russie, il est très rapidement attiré par le théâtre, mais il doit aussi gagner sa vie. Président de grandes entreprises, il en tirera l'inspiration par-dessus bord et à la renverse évoqueront l'entreprise capitaliste américaine. Puis il s'engage dans le théâtre des idées, dans son Iphigénie Hôtel, derrière des gens ordinaires, des touristes et le personnel d'un hôtel à Mycène, se profilent les figures immenses et cachées du mythe, nous dit Madame Florence Delay, qui précise que pour Michel Vinavert, les petites affaires ne sont pas vulgaires, les grandes affaires ne sont pas nobles, et le théâtre des idées est aussi un théâtre du quotidien, une exploration des travaux et des jours, une mise à plat et en abîme de la banalité. En témoigne la demande d'emploi, dissident, il va sans dire, ou Nina, c'est autre chose, traducteur, adaptateur des plus grands, passant des affaires à l'enseignement du théâtre, éditant son théâtre complet, on y retrouvera cette trajectoire si singulière. Le prix du jeune théâtre Béatrix Dussan, André Roussin, a été décerné à M. Antoine Roux pour sa pièce « Le Caïman ». Jeune auteur, certes, puisque Le Caïman est sa deuxième pièce, mais exigeant et rare. C'est une forme de huis clos qu'il installe. L'affrontement sans merci d'un philosophe marxiste au crépuscule de sa carrière et de son épouse et inspiratrice. Drame conjugal, apothéose tragique d'une longue histoire d'amour, intense réflexion sur la religion, le parti communiste, la folie, la famille, deux héros directement inspirés par Louis Althusser qui, un soir, dans un accès de démence, tue son épouse. Une pièce à clé donc, peut-être, mais dit Frédéric Vitoux, il y a plus ici. Il y a le miracle du théâtre, c'est-à-dire l'autonomie de ses personnages, au-delà de leur modèle, et d'abord la riche complexité d'une pièce parmi les plus ambitieuses que nous a proposé le théâtre contemporain. Monsieur Jacques Audiard a reçu pour l'ensemble de son œuvre cinématographique le prix du cinéma René Clair. Jacques Audiard a collaboré à plusieurs films, Avant de se lancer lui-même en qualité de réalisateur, il en a signé 4, « Regarde les hommes tombés », Un héros très discret, sur mes lèvres et de battre mon cœur s'est arrêté. Production rare, il le reconnaît lui-même. Mais chaque fois un événement d'une qualité exceptionnelle où le message s'inscrit dans les images de façon subtile et forte, pudique et inoubliable. Ce qu'affirme M. Jean-François Deniaux en disant de lui que dès aujourd'hui, il a une œuvre. En décernant la grande médaille de la chanson française à Mme Françoise Hardy, c'est non seulement une carrière d'auteur et d'interprète, c'est toute une vie dédiée à la chanson que l'Académie française a voulu couronner. Madame Françoise Hardy écrit, compose, chante depuis plus de 40 ans, depuis qu'elle s'est produite au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille et à la télévision. Le succès mondial de Tous les garçons et les filles, la consécration en nouvelle idole de la chanson en 1963 ne lui ont jamais fait perdre son style, son inspiration et son charme personnel qui lui valent durablement d'être admiré et écouté. J'en viens maintenant au prix que l'Académie réserve aux personnalités qui ont contribué à assurer à travers le monde le rayonnement de la langue et de la littérature française. 5 médailles de vermeil ont été attribuées à M. Réginald Amonneau, professeur au département of Modern Language de l'Université du Ghana, puis de l'Université de Zimbabwe. Il a été successivement président de la Fédération internationale des langues et littératures modernes, trésorier, puis vice-président du Congrès international de la philosophie et des sciences humaines de l'UNESCO. Dans l'Afrique francophone, il a constamment défendu les positions de la langue française. Enfin, il a soutenu en Sorbonne en 1995 une thèse sur Corneille, la Rome de Corneille, mythe et réalité. À Madame Peiwa Chili, qui taïwanaise s'inscrivit dans l'un des très rares départements de français des universités de son pays. Licenciée en langue et littérature française et en raison de ses mérites, elle obtient une bourse d'études du gouvernement français grâce à laquelle elle obtient un diplôme d'études approfondies qu'elle complète par un doctorat en université de Tam Kang. Professeure de français en son pays, elle prend la tête de l'Association des professeurs de français de Taïwan et s'efforce dans un environnement anglophone de susciter un intérêt croissant pour notre langue. Marathon de français pour les étudiants, journée internationale de la francophonie, premier congrès Asie-Pacifique de la Fédération internationale des professeurs de français, et surtout, elle œuvre pour imposer en seconde langue le français dans les lycées taïwanais. Elle effectue par ailleurs un travail de recherche sur des sujets de linguistique comparée français-chinois. À Madame Benedetta Craveri, petite-fille du grand philosophe et critique italien Benedetto Croce, et l'épouse de l'ambassadeur de France, Benoît d'Abbeville, professeur à l'université Suor-Sola de Naples, Madame Craveri d'Abbeville, par son enseignement et ses ouvrages, n'a cessé de défendre et d'illustrer notre littérature et notre tradition morale. Ambassadrice, elle a contribué par sa grâce et sa haute culture au succès diplomatique de son époux. À Monsieur Xavier Deniaux, ancien ministre, maître des requêtes au Conseil d'État et l'un des fondateurs de la francophonie. Avec le soutien du général de Gaulle et celui de feu notre confrère Léopold Senghor, il lance l'idée dès 1962 d'un rassemblement des pays utilisant la langue française et ne cessera de défendre le français. Des institutions spécialisées, des sommets au niveau le plus élevé, des projets financiers en commun font qu'aujourd'hui plus de 50 pays dans le monde se considèrent toutes en partie comme francophones. À Monsieur Ronald Tobin, enfin. À Monsieur Ronald Tobin, enfin, professeur à l'Université de Santa Barbara en Californie, il est l'un des plus ardents et autorisés chefs de file des études françaises aux États-Unis. Ses ouvrages qu'il a consacrés à nos auteurs classiques, mais aussi la revue French Studies, qu'il a dirigé pendant plusieurs décennies, ont entretenu la diffusion de la langue française dans le monde. Cette proclamation de nos grands prix n'épuise pas notre palmarès. D'autres prix ont été institués par des fondations qui portent le nom des mécènes qui les ont créés. Afin de ne pas prolonger indûment notre séance, je vous demanderai désormais de réserver vos applaudissements à la fin de la lecture de notre palmarès. Les lauréats pourront alors se lever tous ensemble et recevoir ainsi les hommages qui leur sont dus. Le prix Théophile Gautier a été décerné à M. Henri Droguet pour avis de passage. Le prix Hérédia revient à M. Jacques Ancet pour diptyque avec une ombre. Il reçoit une médaille de bronze. Une seconde médaille de bronze pour le même prix a été attribuée à M. Philippe Martial pour récital. Le prix Pascal Fortuny, médaille de bronze, est décerné à M. Jean-François Migaud pour le semeur de minuit. Le prix François Copé, médaille de vermeil, a été attribué à M. Yvan Bérébi pour éloge de l'antichambre. Le prix Paul Verlaine, médaille d'argent, revient à Mme Marie-Claire Bancard pour Avec la mort, quartier d'orange entre les dents. Le prix Henri Mondor, décerné à M. Michel Murat pour le coup de dé de Mallarmé, un recommencement de la poésie. La médaille d'argent du prix Montyon revient à M. Renaud Girard pour Pourquoi ils se battent, voyage à travers les guerres au Moyen-Orient. La médaille d'argent du prix La Bruyère revient à M. Louis Van Delft pour Les spectateurs de la vie, généalogie du regard moraliste. La médaille d'argent du prix Jules Janin a été attribuée à M. Benito Pellegrin pour son édition de Balthazar Gracian, traité politique, esthétique, éthique. La médaille d'argent du prix Émile Faguet a été attribuée à M. John E. Jackson pour Baudelaire sans fin, essai sur les fleurs du mal. Le prix Louis Barthou a été décerné à M. Jean-Michel Maulpois pour Adieu aux poèmes. La médaille d'argent du prix Anna de Noailles revient à Mme Béatrice Mouly pour Max Jacob. Le prix François Mauriac a été attribué à M. Jérôme Fronty pour Cavaltois Barès. La médaille d'argent du prix Georges Dumézil revient à M. Alain Fléchère pour L'accent, une langue fantôme. Le prix Roland Jouvenel a été décerné à M. Jean Canavaggio pour Don Quichotte, du livre au mythe. Le prix Biguet a été attribué à M. Maxence Caron pour Heidegger, Pensée de l'être et origine de la subjectivité. Le prix F. Delacroix a été décerné à M. Jean-Paul Sermin pour le conte de fées du classicisme aux Lumières. Le prix Jacques Lacroix a été attribué à M. Bruno Corbara pour Constructions animales. Le prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne a été décerné à M. Jean-Marie Salamito pour Les virtuoses et la multitude, aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les Pélagiens. Le prix Civet a été attribué à M. Franck-André Jamme. Le prix Guizot a été décerné à M. Olivier Chaline pour le règne de Louis XIV. Deux médailles d'argent pour le même prix ont été attribuées, l'une à Mme Véronique Larcade pour Les cadets de Gascogne, une histoire turbulente, l'autre à M. Marc Boyer pour le thermalisme dans le grand sud-est de la France. La médaille d'argent du prix Thiers revient à M. Philippe Dugue pour Les écrans de la guerre, le cinéma de 1940 à 1944. Le prix Eugène Colas a été attribué à Mme Emmanuelle Loyer pour Paris à New York, intellectuel et artiste français en exil, 1940-1947. Le prix Eugène Carrière a été décerné à Mme Catherine Monbeck-Gogel pour Dessins toscans, XVIe et XVIIe siècle, tome 2. Le prix Georges Goyot a été attribué à M. Michel Verger-Franceschi pour Paoli, un Corse des Lumières. Le prix Louis Castex récompense M. Grégory Quenet pour Les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle. Le prix Monseigneur Marcel récompense M. Louis Valck pour Pic de la Mirandole, un itinéraire philosophique. Le prix Diane Poitier-Boès a été attribué à Mme Danielle Johanna pour Aspasie de Milet, Égérie de Périclès. La médaille d'argent du prix du maréchal Foch revient à M. Pierre Jardin pour Aux racines du mal, 1918, le déni de défaite. Le prix François Millepierre a été attribué à M. François Hartog pour Ancien, moderne et sauvage. Deux médailles d'argent ont été en outre décernées au titre de ce prix, l'une à M. Cyril Debris pour Tout Félix Austria Noubet, la dynastie des Habsbourg et sa politique matrimoniale à la fin du Moyen-Âge, XIIIe-XIVe siècle, et l'autre à M. Bruno Dumézil pour Les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, Ve-VIIIe siècle. Enfin, le prix Henri de Régnier a été décerné à Mme Catherine Pinguet et le prix Amica a été attribué à M. Jacques Houbert. Et le prix Motard décerné à M. Raphaël Laloux. Mesdames, Messieurs que j'ai cités, si vous voulez vous lever pour que, ensemble, nous vous applaudissions. La parole est à Madame la secrétaire perpétuelle.
Mesdames, Messieurs de l'Académie, la mode est aujourd'hui à la lamentation sur le déclin français. Et dans le discours morose des Cassandres de toutes obédiences, le déclin de la langue française tient une place privilégiée. On ne peut certes nier que notre langue, après avoir connu des périodes glorieuses, soit désormais entrée dans un temps de difficultés et de défis surtout. Il y eut les siècles de splendeur. Le XVIe, avec l'édit de Villers-Cotterêts qui vit le français supplanter le latin et devenir langue du royaume. Puis le XVIIIe siècle, où le français brilla d'un éclat tout particulier, rayonnant dans toute l'Europe. C'était alors la langue des diplomates, celle dont usaient aussi tous les grands souverains. Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Gustave III de Suède. Ces chefs d'État s'exprimaient, lisaient et correspondaient en français, et leurs cours étaient les hauts lieux de l'art du siècle, celui de la conversation qui ne pouvait alors être que française. Voltaire a dit les raisons de l'universalité de la langue française dans son dictionnaire philosophique. De toutes les langues de l'Europe, la française doit être la plus générale, parce qu'elle est la plus propre à la conversation. Elle a pris ce caractère dans le peuple qui la parle. L'esprit de société et le partage naturel des Français, c'est un mérite et un plaisir dont les autres peuples ont senti le besoin. L'ordre naturel dans lequel on est obligé d'exprimer ses pensées et de construire ses phrases répand dans notre langue une douceur et une facilité qui plaît à tous les peuples. Et le génie de la nation, se mêlant au génie de la langue, a produit plus de livres agréablement écrits qu'on n'en voit chez aucun autre peuple. La liberté et la douceur de la société n'ayant été longtemps connue qu'en France, le langage y a reçu une délicatesse d'expression et une finesse de naturel qu'on ne trouve guère ailleurs. Voltaire ajoutait plus loin, « C'est une pléiade d'écrivains qui a été le mérite de la France, son seul mérite, son unique supériorité. C'est un petit nombre de génies sublimes et aimables qui font qu'on parle français à Vienne, à Stockholm et à Moscou. » La perfection de la langue et son influence ne risquait-elle pas de s'étioler ou d'être, comme d'autres langues l'ont été avant elle, corrompue ? Rivarol posait cette question à l'Académie de Berlin dans son discours fameux sur l'universalité de la langue française. Prenant pour exemple, combien curieux pour nous, aujourd'hui, l'Angleterre, dont il soulignait le double déclin, celui de la littérature, donc de la langue, et celui de la prépondérance dans le monde. Mais il écartait fermement la perspective d'un destin semblable pour la langue française et pour son autorité dans toute l'Europe. Pourtant, l'époque que nous vivons semble condamner cet optimisme. Après les siècles de splendeur, notre langue est entrée, impossible de le contester, dans une période sombre où sa perfection, dont Voltaire et Rivarol s'enchantaient, a été minée, corrompue, tandis que l'anglais prend chaque jour davantage son relais comme langue de communication, menaçant de devenir un jour langue universelle. La crise incontestable, mais non le déclin tout de même, du français dans notre pays, où le génie national fut si durablement mêlé au génie de la langue, et hors de France où, forcé de l'admettre, l'usage du français régresse dans les lieux de pouvoir qui ont succédé aux cours, et plus encore dans la diplomatie et les instances internationales, cette crise donc justifie peut-être la déploration, mais surtout elle devrait inciter à la réflexion. Pourquoi maltraite-t-on le français dans notre pays ? Le vocabulaire se réduit. On ignore la grammaire et la syntaxe. La phrase n'est le plus souvent qu'une simple juxtaposition de mots employés hors de leur sens, ou d'anglicismes inappropriés, ou encore d'un nouveau vocabulaire qui évoque irrésistiblement la novlangue d'Orwell, fondée comme elle sur des critères de correction politique. Les mots utilisés couramment s'éloignent toujours plus de la réalité qu'ils nomment. L'école qui a pour mission de transmettre la langue et la littérature aux adultes de demain admet, hélas, que ses élèves apprennent le français en écoutant Skyrock ou Fun Radio, plutôt que dans les textes d'Anatole France et de Colette. Mais il est vrai, nous dit-on, que les dictées et les récitations sont des exercices qui blessent la liberté des élèves. Pour ces raisons, Montaigne, Rabelais, Corneille, Marivaux sont passés à la trappe des programmes, car ils sont jugés incompréhensibles aux élèves. Et l'on considère que le néo-argot des banlieues et un vocabulaire technique anglo-américain simpliste sont les meilleurs outils de communication moderne. La langue, disent les spécialistes de l'éducation, doit s'adapter à une société hétérogène, à la mondialisation, aux nouvelles technologies de communication, à la professionnalisation et surtout à la libre invention de celui qui parle, au mépris de toute règle. Il n'est donc guère étonnant dans ces conditions que ce français dégradé déconcerte et décourage tous ceux qui, hors de nos frontières, continuent à chérir notre langue. Ils se demandent avec perplexité si elle est encore en mesure de désigner les choses, de s'adapter à un monde qui change rapidement, qui ne connaît plus de frontières et dont toutes les innovations doivent être nommées dans une langue claire et précise, ce que l'anglais semble être en mesure de faire aujourd'hui. Roland Barthes a dénoncé naguère ce qu'il nommait le mythe de la clarté de la langue française. Cette langue est, disait-il, surveillée, écrite comme on a écrit le hiéroglyphique, le sanskrit ou le latin médiéval, ce qui en fait en définitive une langue embaumée. Il est donc légitime, complétait-il, que triomphe de cette langue morte une langue vivante, librement créée à chaque instant par celui qui parle, ou bien encore l'anglais qui est, au dire de ses partisans, seul apte à véhiculer la modernité. Sans doute, le français que l'on entend dans les rues et sur les ondes, que l'on découvre dans mains écrites, est-il déplorable et appauvri ? Mais l'état d'une langue ne se juge pas seulement sur la parole de la rue, sur l'oral, pas plus que l'opinion ne se mesure par les radios-trottoirs et les sondages. De même que seules des élections permettent de connaître l'état d'esprit et les volontés d'une société à un moment donné, ce sont les dictionnaires qui rendent compte de l'évolution réelle des langues. Ils en sont les véritables bulletins de santé. C'est pourquoi, pour répondre à Barthes et à tous ceux qui, avec lui, annoncent haut et fort le dépérissement du français, je veux fonder mon propos aujourd'hui sur la grande entreprise que Richelieu avait confiée à l'Académie, son dictionnaire, référence de tous les autres dictionnaires. Et je veux montrer que le discours pessimiste et parfois haineux sur l'embaumement ou l'inadaptation du français au monde moderne découle de son ignorance. Notre langue aujourd'hui n'est ni embaumée, ni inadaptée au monde du progrès constant, mais tout au contraire, elle rend compte avec une force et une précision étonnantes d'un univers bouleversé où jamais il n'y eut autant de réalités nouvelles à nommer. L'Académie travaille actuellement à la 9e édition de son dictionnaire, et tout le monde d'ailleurs s'interroge sur ce qu'est ce dictionnaire et combien de temps il faut pour le rédiger. Il est d'usage, et ce n'est pas scandaleux, de railler la lenteur de ses travaux. Le premier à le faire fut Louis XIV, qui exaspérait une rédaction interminable. Et il est vrai que si l'on calcule le temps consacré par l'Académie depuis sa fondation en 1635 à éditer un dictionnaire, on constate qu'il y faut 46 ans en moyenne, c'est-à-dire à peine 2 éditions par siècle. L'histoire ne cesse de s'accélérer. Le monde est prodigue de nouveautés qui se transforment très vite. Les dictionnaires, dont la mission est de consigner ces changements souvent vertigineux, doivent, sinon aller de pair avec eux, du moins, hâter leur rythme de publication. Certes, une langue n'est pas un conglomérat de mots à la mode qui traverse de manière fugace la vie des sociétés. Et un dictionnaire, celui de l'Académie avant tout, témoin de l'usage, du bon usage, doit prendre le temps de vérifier l'aptitude d'un mot à rendre compte du réel ou d'une idée, à plaire à ceux qui l'utiliseront et à vivre durablement. Le dictionnaire de l'Académie ne pourrait remplir ce rôle de greffier de la langue, et non, je veux le préciser, de conservateur, car la langue n'est pas un musée, elle est la vie. S'il était une publication de court terme, la durée lui est nécessaire, Mais cette durée est en train, comme la langue elle-même, de se modifier. Si 57 ans séparent la 7e édition du dictionnaire publié en 1878 de la 8e qui célébra en 1935 le tricentenaire de la fondation de l'Académie, si 57 ans encore séparent l'édition de nos prédécesseurs du premier tome de la nôtre en 1992, c'est-à-dire il y a tout juste 14 ans, le rythme et la nature même du dictionnaire ont été depuis lors bouleversés. Avant de l'expliquer, je veux saluer ici l'œuvre visionnaire de celui qui aura pensé et voulu ces bouleversements, c'est-à-dire l'adaptation du dictionnaire, de l'outil privilégié de la langue française au temps présent, mon prédécesseur Maurice Druon, aujourd'hui secrétaire perpétuel honoraire, qui durant 15 années aura engagé et accompagné ce mouvement qui est désormais irréversible. Parlons d'abord du changement de rythme. Le tome 2 du dictionnaire aura paru en décembre 2000, c'est-à-dire 8 ans après le premier. Le troisième sera mis sous presse au cours de l'année 2008. Il restera encore un dernier tome qui devrait être achevé dans un délai semblable. Le temps séparant deux éditions serait ainsi réduit de moitié par rapport au passé. Mais bien plus que ce gain de temps spectaculaire, c'est l'ampleur du dictionnaire qui éclaire sa transformation. Toutes les éditions précédentes comptaient deux volumes. L'augmentation extraordinaire du vocabulaire étudié et retenu a eu pour conséquence que l'édition en cours se compose de 4 volumes. Et que dire du nombre de mots ? Les deux tomes de 1935 contenaient environ 35 000 mots. L'édition que nous préparons sera riche de plus de 55 000 mots. Tous les dictionnaires sont confrontés à un même problème, celui de l'enrichissement constant de la langue. Mais comme ils sont généralement contraints de garder d'une édition à l'autre une dimension identique, ils doivent se débarrasser de très nombreux mots, jugés périmés, pour faire place aux mots nouveaux. Le dictionnaire de l'Académie, qui n'est pas soumis à des exigences commerciales, a pu adapter à sa guise ses dimensions aux évolutions de l'usage. Et il a hésité à chasser des mots pour faire place à d'autres. Il a voulu retenir tous ceux qui appartiennent au patrimoine de la langue et qui éclairent sa longue histoire. Il y a 12 ans, sous cette même coupole, notre confrère Bertrand Poirot-Delpech évoquait, je le cite, le balai accéléré des entrées et des sorties de mots. Nous avons beau conserver par principe les vocabulaires en usage au siècle dernier afin que les chefs-d'œuvre restent accessibles et compréhensibles, il nous faut éliminer des centaines de mots dont l'usage ne justifie plus le maintien. Ces disparitions crèvent le cœur. Elles font l'effet de sacrifier une substance vivante. Et les entrées sont des décisions bien plus gaies à prendre, encore qu'elles fassent renaître un clivage constant depuis 3 siècles, entre les puristes, partisans d'une langue châtiée, ce qui ne veut pas dire châtrée, et les laxistes pour qui les inventions de la rue doivent être admises sans délai. Le balai, évoqué par Bertrand Poirot-Delpech, donne toujours lieu à des compromis, reflet de l'esprit de tolérance qui plane sur notre compagnie. Parce qu'il doit être tout à la fois le greffier de l'usage, le témoin de l'histoire et celui du changement, le dictionnaire de l'Académie aura donc presque doublé de volume. En consacrant ainsi un très grand nombre de mots nouveaux, l'Académie répond aux exigences du temps, mais aussi, elle se montre fidèle à sa tradition. Fénelon, qui y siégeait au XVIIIe siècle, avait écrit à ses pairs dans une lettre célèbre, je le cite, « Je voudrais autoriser tout terme qui nous manque et qui a un son doux, sans danger d'équivoque. » Ajoutant qu'il fallait aussi emprunter les mots nécessaires à l'étranger pour enrichir à chaque instant la langue, et il prenait pour cela, en exemple, la langue anglaise qui pratiquait de tels emprunts. Le bon usage d'aujourd'hui suit ses recommandations et accueille d'innombrables mots nouveaux. Tout d'abord, ceux qui rendent compte de la civilisation matérielle contemporaine, par exemple aérosol, décodeur, billetterie, ergonomie, ou encore des mots qui traduisent des réalités politiques ou sociales nouvelles, illettrisme, mafieux, machisme, énarque, génocide, holocauste. Mais on y trouve aussi des mots plus familiers, allant parfois jusqu'au langage qu'invente la rue, comme entourloupé ou gamberger. Le dictionnaire, constitué par ces magistrats de la langue que sont les académiciens, ne craint pas davantage d'accueillir des mots populaires, bagnole, arnaqueur, dragueur, ou encore d'élargir son registre argotique avec flingue, loubard, cam, dope, joint. Je pourrais multiplier à l'infini ces exemples. Sans doute, tout n'est-il pas acceptable. C'est le bon goût qui commande les choix et qui indique, selon le mot de Jean Cocteau, qui siégea parmi nous autrefois, jusqu'où on peut aller trop loin. C'est en vertu de ce principe que des mots tels que chialer, je m'en foutisme ou encore nana ont été refoulés. De même que l'abominable néologisme cher aux publicitaires, positivé. La langue française s'enrichit aussi de nombreux mots étrangers. Dans le dictionnaire de 1935, on ne trouvait que 35 mots commençant par la lettre K, presque tous d'ailleurs d'origine étrangère. Ils sont près de 200 aujourd'hui, empruntés à l'anglais, comme ketchup ou knockout, à l'allemand, tel kitsch, mais aussi au russe, kalachnikov ou kolkhoz, au japonais, kamikaze ou kabuki, à l'arabe ou turc et à bien d'autres langues encore. Toutes les lettres de l'alphabet attestent de ces emprunts qui rendent compte de réalités nouvelles et d'un langage rénové. Aux mots de la vie actuelle, aux mots étrangers, vient s'ajouter désormais, et ce n'est pas le moindre signe de modernité de la langue française, un vocabulaire scientifique et technique dont Paul Valéry avait déjà entrevu qu'il allait s'imposer à la langue. Car écrivait-il, l'accroissement du nombre de mots techniques presque indispensables dans la langue de l'usage est la mesure du changement de siècle du 19e au 20e. La particularité de ce vocabulaire nouveau est qu'en des temps d'innovation permanente, les termes qui en rendent compte sont pour l'essentiel comme les inventions d'origine étrangère ou en tout cas exprimées en anglais. Cela signifie-t-il que désormais chaque pays devra avoir deux langues juxtaposées, la sienne et celle de la modernité scientifique et technique, c'est-à-dire l'anglais ou un jargon anglicisé? C'est ce rejet du français hors de la sphère de la modernité que la France a refusé d'accepter. Et l'unité de la langue, sa capacité à servir de véhicule au progrès scientifique, ont été organisées systématiquement. L'instrument de cette entreprise inédite, révolutionnaire même, pour franciser, naturaliser en français un vocabulaire étranger immense et chaque jour augmenté, est une coalition d'institutions décrite dans le décret du 3 juillet 1996 portant sur l'enrichissement de la langue française. En fonction de ce décret, presque chaque ministère a été doté d'une commission de terminologie qui recense, examine et suggère un équivalent français et une définition en français des mots étrangers relevant de sa compétence. On y trouve tout, la chimie, l'informatique, le nucléaire, la mécanique, les travaux publics. Je ne pourrais tout énumérer. Cet immense travail est ensuite présenté à la Commission générale de terminologie et de néologie qui est auprès du Premier ministre et qui est présidée par un membre de l'Académie française, jusqu'à cette année, Gabriel de Breuil. Marc Fumaroli vient de lui succéder. En dernier ressort, il revient à l'Académie française de décider du sort de chaque mot élaboré au cours de ce processus et de vérifier le bon français de chaque définition. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'une invention bureaucratique, ni d'un machin, comme dit le général de Gaulle, mais d'une expérience révolutionnaire, puisqu'il s'agit de créer le français des sciences et des techniques et d'en faire une part intégrante de notre langue au XXIe siècle. Jamais le français n'aura été autant bouleversé et enrichi. En 2006, les académiciens qui élaborent le dictionnaire, plus précisément le petit noyau d'académiciens qui travaillent au sein de la commission du dictionnaire, ont dû ainsi se prononcer sur 600 mots de cette nouvelle langue et les avis qui leur sont demandés ne cessent d'augmenter, menaçant de tourner à l'avalanche. Les mots approuvés sont ensuite publiés au journal officiel et l'usage en devient obligatoire pour l'État et pour toutes ses institutions. Pour autant, le dictionnaire n'adopte pas, et de loin, tous les termes que l'Académie a ainsi entérinés. Et il abandonne nombre d'entre eux aux spécialistes. Pour que les mots neufs, reflets des progrès en tout domaine, soient inscrits dans le registre du bon usage, il faut qu'ils soient bien construits, qu'ils dépassent l'univers des jargons professionnels pour pénétrer dans la langue courante et qu'ils s'y installent, confirmés par la durée. C'est en vertu de ce parcours des mots que baladeur a supplanté Walkman, numérique a été préféré à digital, libre-service remplace self-service, ou encore que l'on dira ristourne au lieu de discount. Beaucoup de mots scientifiques et techniques n'ont pas encore trouvé leur place dans l'usage courant, malgré la bénédiction que leur a donnée l'Académie, car la résistance des mots anglais est très forte. Mais les hommes politiques, par exemple, découvrent qu'option sur titre est une expression bien plus compréhensible que stock option. Qu'ils persévèrent dans cette découverte, et il est fort à parier que l'expression s'imposera. Cela signifie que l'avenir de la langue française est l'affaire de tous ceux qui disposent d'une autorité, d'un moyen de communication, du prestige. Que l'avenir de la langue française est l'affaire de chacun d'entre nous à sa place, avec ses moyens. Si nous en sommes conscients à chaque instant, notre langue continuera à s'imposer et à gagner du terrain. Enrichie, modernisée, adaptée progressivement à l'explosion de disciplines exprimées d'abord en anglais, la langue française témoigne, on le voit, d'une extraordinaire vitalité. Mais le dictionnaire de l'Académie peut-il, en raison de son ambition même, qui lui impose de longs délais de préparation, servir encore de référence ? Il le peut, sans aucun doute, car il s'appuie désormais sur une autre innovation qui permet sinon de faire paraître une édition en un temps très court, du moins de tenir à jour le registre de la langue. L'Internet, où l'Académie a ouvert un site il y a 8 ans déjà, répond à cette nécessité. Le texte du dictionnaire y est mis en ligne au fur et à mesure de l'avancement des travaux, c'est-à-dire que les 3/4 du tome qui paraîtra en 2008 sont déjà consultables. Plus encore, la version électronique de cette 9e édition incorpore progressivement tous les mots qui n'y figuraient pas, soit parce qu'ils n'existaient pas encore lorsque les tomes précédents furent publiés, tel est le cas de courriel ou de CD-ROM, ou bien encore parce que ce sont des mots qui ont été négligés d'abord, mais qui, après quelques années, se sont imposés, car le temps en aura confirmé l'usage. Cette mise à jour permanente grâce à l'électronique confère au dictionnaire et aux travaux de l'Académie une actualité et une efficacité qu'ils n'eurent jamais dans le passé. On voit bien que la vieille dame du Quai Conti vit avec son temps. Enfin, des mots et expressions de la francophonie ont été aussi pour la première fois accueillis dans le dictionnaire et inscrits, donc comme cela a été naturel, dans le bon usage. Ils n'y figurent pas encore en nombre suffisant, mais on peut le regretter, surtout pour l'Afrique, car là naissent quotidiennement d'innombrables mots et expressions colorés, savoureux, étonnamment évocateurs, dont la richesse est indispensable à notre langue pour y compenser l'apport d'un vocabulaire technique et scientifique qui pourrait, par la place croissante qui lui est donnée, enlever aux Français l'aménité, la variété et la grâce que depuis des siècles on a tant loué. La vision planétaire de la langue adoptée par l'Académie nous conduit tout naturellement à la francophonie. Il faut rappeler d'abord que si ce mot fut inventé à la fin du XIXe siècle par un géographe français, Onésime Reclus, sa fortune fut assurée après la Seconde Guerre mondiale, non par des Français, mais par des hommes qui avaient partagé notre langue au temps de l'Empire. Léopold Sédar Senghor, qui fut notre confrère, Habib Bourguiba, Amani Diori, le prince Norodom Sihanouk. La francophonie était pour eux un projet politique, une volonté de dépasser l'opposition entre peuple puissant et peuple soumis par la fraternité spirituelle que crée la langue française, accessible à tous. Dans l'esprit des pères de la francophonie, elle était tout à la fois un symbole d'unité spirituelle, de solidarité entre hommes de civilisation et de développement différents, et un appel à la liberté face à la logique coloniale. Dès sa naissance, la francophonie a été une idée subversive. Et pour Léopold Sédar-Senghor, il l'a toujours répété, elle était un idéal, elle n'était pas une idéologie. C'est cela qui explique qu'en un siècle où les idéologies s'effondrent dans un mépris général, la francophonie n'y rayonne et attire tous les peuples qui s'émancipent. Boutros Boutros-Ghali, qui était il y a peu encore secrétaire général de la francophonie, disait que jamais la langue française ne connut un destin aussi exceptionnel qu'en ce siècle. Au XVIIIe siècle, elle était certes la langue de toute l'Europe, mais d'une Europe particulière, relativement restreinte, celle des cours et des salons, de la République des lettres et des élites. En ce XXIe siècle commençant, le français est devenu la langue de sociétés entières, celle des chefs d'État certes, mais aussi du petit marchand de rue de Brazzaville et du cireur de chaussures de Marrakech. Et celui qui a conversé avec l'un de ces personnages modestes est émerveillé en entendant le français le plus châtié, mais aussi le plus ravissant qui se puisse imaginer. C'est qu'en Afrique, la langue française n'a cessé de s'épanouir, de s'adapter au monde avec une perfection que l'on doit aussi bien à l'agrégé de grammaire Léopold Sédar-Senghor qu'au plus humble de ses compatriotes. Et cet amour du français rayonne sur tous les continents. Il y a quelques semaines à peine, les grands prix littéraires, grand prix du roman de l'Académie française, prix Goncourt, prix Femina, prix Renaudot, d'autres prix de l'Académie, ont couronné des écrivains américains, canadiens, africains, slovènes aujourd'hui, qui ont tous choisi d'écrire en français, alors que ce n'était pas la langue de leurs origines. La francophonie connaît aujourd'hui un nouvel élan sous l'impulsion d'un grand Africain, le président Abdou Diouf. On lui doit d'avoir dit qu'elle ne pouvait être un simple élargissement à tout pays, fasciné par cet ensemble dont la diversité et l'universalisme font un puissant pôle d'attraction. Que l'adhésion à des idées respectables, certes, droits de l'homme, liberté, solidarité, ne suffit pas à justifier l'entrée dans la famille francophone. Le ciment de cette famille, le critère d'appartenance est, il le répète sans cesse, la langue française. Les peuples qui veulent rejoindre la francophonie doivent pratiquer cette langue, l'enseigner et l'utiliser dans toutes les enceintes où le recours à une langue étrangère est la règle. Avocat passionné d'une francophonie fondée d'abord et avant tout sur le partage d'une même langue, le français, Abdou Diouf a posé un principe qui paraissait aller de soi, mais qui est en réalité novateur, ou en tout cas qui n'avait pas été appliqué, que la francophonie implique des comportements francophones, notamment qu'au sein de toutes les instances internationales, les représentants des États membres de la francophonie, qui ne peuvent faire usage de leur langue, doivent toujours s'exprimer en français. On imagine les effets de cette exigence sur les institutions de l'Union européenne, où l'on a suffisamment déploré le recul de la langue française au bénéfice de l'anglais. Son élargissement récent aux États de l'Europe de l'Est et des Balkans a pour conséquence que l'Union européenne rassemble désormais 13 pays francophones sur 25 États membres, c'est-à-dire que les francophones y détiennent la majorité absolue. Nul n'ignore le coût croissant des traductions dans cette tour de Babel, et on en prend prétexte pour recourir toujours plus à l'anglais, en attendant, espèrent certains, d'en faire la langue commune de tous les Européens. La situation majoritaire depuis cette année des États de la francophonie en Europe change tout. Non seulement ils sont prêts à exiger, et ils le font, que la langue qui les unit retrouve toute sa place dans les instances européennes, mais ils portent aussi un message d'espoir pour d'autres langues du continent, car c'est là l'autre aspect de la francophonie, inséparable d'elle, la revendication de la diversité linguistique au nom du respect de toutes les langues et de toutes les cultures. Refuser l'uniformisation par la langue anglaise implique en effet que l'on défende la pluralité linguistique. Abdou Diouf, toujours lui, doit aussi être crédité d'une autre exigence capitale, celle qui porte sur la définition du français. Le chef de file de la francophonie martèle que la langue française est une. Sans doute bénéficie-t-elle de l'apport de cultures différentes, dont les traditions, les usages, les vocabulaires l'ont enrichi et continueront à l'enrichir. Mais cet enrichissement doit s'accomplir au sein de la langue française, en respectant sa structure, sa logique, son génie. Clamer, comme l'a fait récemment un linguiste dont je tairai le nom, car ce n'est pas le lieu ici de polémiquer, qu'il faut, je le cite, « mettre en cause ce monolinguisme arrogant auquel se résume en France l'amour de l'idiome national, mettre en cause le repli morose qui commence par le purisme, rejette les innovations orthographe, féminisation, mépris des parlers régionaux, pour finalement, je continue à citer, abandonner la souveraineté nominative de la langue et échanger le nationalisme langagier contre la fraternité internationale des parlures françaises. Non, le français n'est pas une langue arrogante, ni une langue figée par un purisme exigeant. C'est tout au contraire une langue ouverte, une langue qui ne rejette aucun apport, aucune innovation, dès lors qu'il s'inscrive dans le mouvement qui l'a fait vivre. Mais ce ne peut être une langue éclatée. Ce n'est pas une auberge espagnole où chacun installe son parler, voire, comme le dit notre linguiste impudent, ses parlures. L'unité de la langue, enrichie d'apports innombrables, toujours en mouvement, constitue le bon usage de la francophonie prônée par Abdou Diouf. On voit ici ce que notre langue doit aujourd'hui à l'action énergique, remarquable de ce Sénégalais amoureux de la langue française qui la brandit comme une épée de feu sur tout le globe terrestre. Grâce à lui, la menace d'une Europe anglophone recule et le français malmené dans son pays d'origine retrouve en affirmant son unité et sa dignité, sa vocation universelle. Mais la promotion du français aura d'autant plus d'effet qu'elle ne s'effectuera pas contre l'anglais, qu'elle ne sera pas défensive, mais qu'elle se fera au nom de la diversité linguistique, du progrès simultané des autres langues, italien, allemand, espagnol ou russe, qui elles aussi portent le génie et l'identité nationale de ceux qui s'en réclament. Le rejet d'un monde uniformisé autour d'une seule langue est général, et la francophonie en est l'incarnation la plus visible. Mais c'est son ouverture aux autres langues, le soutien généreux qu'elle leur apporte, qui rend son plaidoyer pour la langue française si convaincant et qui contribue à lui assigner un rôle décisif dans le monde moderne. On a trop dit que la modernité ne pouvait se dire qu'en anglais. Le mouvement qui pousse vers la francophonie les peuples qui s'émancipent d'une tutelle étrangère, qui veulent tout à la fois affirmer leur identité, promouvoir leur culture et accéder aux progrès matériels, témoigne que pour eux, la modernité se parle, se chante, se danse en français. L'effort de modernisation de la langue qui s'accomplit en France et qu'enregistre le dictionnaire de l'Académie témoigne qu'il ne s'agit pas là d'un espoir fallacieux. C'est pourquoi, plutôt que de grossir la cohorte des esprits chagrins pleurant sur une langue qu'ils croient en déclin, il faut constater avec tous les francophones du monde que comme le XVIIIe siècle, le XXIe siècle est et sera français. Il l'est par l'amour que tous les francophones portent à notre langue, par le respect et l'attention qu'ils lui témoignent, et parce que, comme le disait Victor Hugo, le français est la langue qui s'est donnée à l'humanité. Merci.
Merci, Madame le Secrétaire perpétuel. La parole est à Monsieur Pierre Nora, à qui revient cette année le privilège de prononcer le traditionnel discours sur la vertu.
Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, pour qui a la faiblesse de prendre au sérieux la vertu, c'est mon cas. Un paradoxe s'impose comme une évidence massive. L'époque est obsédée de vertu et le mot lui-même est devenu imprononçable. Je m'explique. D'un côté, l'esprit de vertu, qui est effort vers le bien, est la chose du monde aujourd'hui la plus répandue. Le moralisme coule à plein bord. On le trouve partout. Il n'est qu'humanitaire, exclusion de l'exclusion, exhortation à la tolérance, ouverture à l'autre, condamnation de toutes les formes de crimes contre l'humanité, repentance, culpabilité généralisée, droit de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'animal et même de la nature. L'empire du bien étend partout ses tentacules. Et la vertu, ou plutôt le vertuisme, pour employer un mot qui n'est pas ou pas encore dans le dictionnaire, a envahi tous les domaines de la vie collective, en particulier ceux dont la logique de fonctionnement lui était en principe étrangère. Pour prendre les quatre principaux, les médias, qui ont remplacé l'information par les bons sentiments, le droit, où le pieux souci de la défense des individus va souvent jusqu'à faire des coupables les victimes du système social, les relations internationales, où les monstres froids que sont les nations doivent apprendre à vivre avec le droit d'ingérence, l'histoire, enfin, que l'extension du devoir de mémoire est en train de transformer en procès général au passé. Et pourtant, qui ose encore parler de vertu ? Le mot lui-même est frappé d'un certain ridicule, d'un démodé certain. Il a perdu la force que lui avait donnée l'Antiquité, arrêté, virtus, et qu'il a conservé jusqu'à Montesquieu. Le XVIIIe siècle, dans l'exaltation nouvelle du sentiment d'humanité, l'a orienté vers la philanthropie. C'est le sens qu'il avait quand le respectable monsieur de Montyon pria l'Académie en 1782 d'agréer la fondation d'un prix de vertu et de louer publiquement le fait le plus vertueux qui se serait passé depuis 2 ans à Paris ou dans les environs. La religion, au XIXe siècle, a ramené le sens à la pratique discrète des vertus chrétiennes qui s'est anémiée jusqu'à la bienfaisance, au patronage, aux bonnes œuvres. C'est au point que le discours annuel sur la vertu déclenche chez nos confrères un réflexe de sauve-qui-peut. Contraint à la ruse et au détour, le malheureux sur la tête de qui s'est immobilisé le pendule de notre cher secrétaire perpétuel et inspire à tout l'entourage, quand se répand la fatale nouvelle, un sourire de compassion où on peut lire au moins un rappel des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Car pour ce qui est des 4 vertus cardinales qui les suivent, j'aurai moi aussi la charité de ne pas demander à chacun d'entre vous de me les rappeler, alors que les 7 péchés capitaux, tout le monde les connaît, pour les avoir parfois fréquentés. Comment expliquer cette étrange contradiction entre l'omniprésence du phénomène et la difficulté à le nommer ? Entre le triomphe d'une vision morale du monde et l'hésitation sur ce qui la sous-tend. Pour ma part, je ne vois qu'une seule explication. Mais j'ose à peine la formuler, car si elle est juste, elle va loin. C'est que de nos jours, le bien n'est plus saisissable que par son contraire, le mal. Le bien a comme disparu en tant que tel. Nous en avons perdu les références positives, les repères fixes, les sources et les définitions. À y un peu réfléchir, il y avait, schématiquement parlant, trois sources de définition du bien. Les enseignements de la religion, le sens de l'histoire et la tradition humaniste qui, depuis Spinoza et Kant, associait étroitement le progrès, la connaissance, la justice et la raison. Les trois sont sortis terriblement ébranlés, directement ou indirectement, de l'âge totalitaire. Et nous ne sommes pas encore remis de son cortège de guerre et de génocide. Le XXe siècle a ruiné la notion de progrès avec la guerre de 14, installé l'image du mal avec le nazisme et perverti l'image du bien avec le communisme. Il y a bien entendu des actions bonnes et des mauvaises, mais il n'y a plus de repère du bien absolu, parce que c'est en son nom que le mal, qui lui est absolu, s'est installé sur le monde. Nous vivons l'éclipse du bien, expliquent les philosophes de l'éthique. Ce n'est pas du relativisme, une équivalence des valeurs, c'est un déséquilibre interne au fonctionnement de ces valeurs, une bizarre inversion. Le bien ne peut plus consister qu'à éviter le mal, à le repousser, à le combattre. L'expression même, l'axe du mal, en fonction duquel se recompose le monde, n'est-elle pas en train de nous le rappeler ? Il n'est pas jusqu'au partage de la politique intérieure qui ne nous le fasse sentir, ou la gauche, qui s'était tant assimilée au bien, au juste, jusqu'à se prévaloir du monopole de la vertu, se définit aujourd'hui plutôt par ce qu'elle combat, le libéralisme toujours ultra, que par ce qu'elle propose. Il y a de multiples formes du bien, mais une radicalité absolue du mal, dont l'étalon reste l'expérience nazie. L'actualité vient de nous le rappeler brutalement, avec la fascination qu'exerce, déclenche, orchestre, le magnifique et purulent roman que l'Académie vient de couronner et que l'Académie Goncourt vient de consacrer. Rien de plus instructif à cet égard que de mesurer la distance qui, sur un petit demi-siècle, sépare le Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt et les Bienveillantes. Les deux livres ont fait scandale et polémique. Mais le premier parce qu'il rapprochait le mal de l'univers du bien qui était encore le nôtre, en en montrant la banalité. Le roman de Jonathan Little, au contraire, parce que le coup d'audace de se mettre dans la peau du bourreau, un homme qui n'a rien d'ordinaire, nous installe, malgré nous, par les moyens de la fiction, dans la centralité mystérieuse du mal. C'est insupportable. Et quelque chose d'irrépressible se révolte en nous du fond de l'être à la mesure même de la pulsion inverse qui nous attire vers ce trou noir. Intolérable tension. Mais c'est elle qui fait de ce livre à tous égards extraordinaire et monstrueux le premier peut-être dont l'horreur même est à la hauteur de l'horreur qu'il veut saisir. C'est dans ce cadre qu'il faut évidemment situer la montée en puissance de la figure de la victime. Nous n'avons plus de saints, plus de héros, plus de sages, ni en général de modèles d'autorité morale. Mais ce sont les victimes du mal qui sont les nouvelles incarnations du bien et dont les figures les plus approchées de la vertu. Et Dieu sait s'il y en a. À commencer par l'enfant, que sa vulnérabilité désigne à l'emprise du mal. Faut-il rappeler l'affaire d'Outreau ? Cet exemple nous mène droit au cœur du problème, qui est, chacun l'a compris, le caractère légèrement suspect et, pour tout dire, hautement pervers du déchaînement vertuiste contemporain. S'il fallait en chercher la racine, on la trouverait à coup sûr dans les gènes mêmes de la démocratie. La passion démocratique naît, comme Tocqueville l'a montré, de l'élargissement de l'idée du semblable à tous les membres de l'humanité, récuse toutes les formes de différenciation et de particularité. Mais le très louable désir des démocraties contemporaines de combattre sous toutes ses formes le mal de l'inhumanité, de ne plus vivre que sous la surveillance de l'humanité, a fini par imposer l'idée que chaque être humain, quel qu'il soit, est non point seulement un égal, mais le même que tout autre être humain. C'est ainsi que le culte de l'égalité, devenu principe unique, vérité abstraite et doctrine de conduite, a abouti à voir dans l'abolition de toutes les différences la vocation ultime de l'humanité. La preuve contradictoire du phénomène étant la quête fébrile et souvent pathétique d'une différence individuelle et secondaire par le roman de soi que chacun s'invente ou se fabrique. L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe de justice élémentaire. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. La lutte contre toutes les formes de discrimination sexuelle, raciale ou religieuse est la meilleure des causes. Mais quand elle signifie confusion, similarité, équivalence, annulation des conditions concrètes de la différence, affirmation généralisée du pareil au même, on est dans l'absurdité, ou plutôt dans la cécité volontaire. Peut-être le mal a-t-il contaminé le bien de sa propre radicalité. Toujours est-il qu'une juste notion de l'universalisme démocratique et de l'égalité qu'elle implique s'est corrompue en idéologie et même en idéologie régnante. Ce qu'Auguste Comte appelait au XIXe siècle la religion de l'humanité s'est insidieusement transformée en ce que Pierre Manent appelle la religion du semblable. Ce glissement a pour corollaire évident de donner à la notion même de crime contre l'humanité une valeur quasi emblématique. Elle est le signe, la marque de notre temps, elle est la pointe extrême de sa conception de la vertu. En soi, l'idée qu'il y ait des crimes et des criminels si grands qu'à tout jamais impardonnables et imprescriptible, peut à coup sûr exprimer un progrès de la conscience universelle. Mais le doute s'insinue quand on commence à l'appliquer à tous les événements du passé. Ainsi, qu'au moment où s'étalait en plein jour la négation de crimes de masse, d'une ampleur et d'une horreur inimaginables qui s'étaient passées au cœur même de l'Europe, que cette négation est entraînée une indignation morale vraie qui explique, sinon justifie, répression et condamnation judiciaire, on peut le comprendre. Encore que l'historien, averti des habitudes des pays totalitaires, se méfie, par principe, des vérités d'État. Mais avec la loi Guesso en 1990, à laquelle je viens de faire allusion, la porte était ouverte à la pression revendicatrice de tous les groupes de victimes. Et la France, seule de tous les pays d'Europe, n'a pas hésité, on le sait, à multiplier généreusement les lois qui qualifiaient criminellement des phénomènes remontant à plusieurs siècles, comme la traite atlantique et l'esclavage, abolis pourtant depuis un siècle et demi, et que l'Europe tout entière, et pas seulement la France, avait aussi largement pratiqué, comme l'avaient fait les Arabes eux-mêmes et les Africains. La voie est alors ouverte à toutes les dérives. À quand la criminalisation juridique des croisades ? Je ne plaisante pas. C'est une des propositions de loi, il y en a ainsi une bonne douzaine, qui sommeille sous le coude des plus vertueux de nos parlementaires. Chacun mesure ici le péril vers lequel nous nous acheminons allègrement. Il est double, celui d'une relecture de l'histoire du seul point de vue moral, ce jugement moral où Marc Bloch voyait le pire ennemi de l'historien, celui d'une criminalisation générale du passé, surtout nationale, qui constituerait comme essentiellement coupable notre identité historique. Est-ce acceptable ? Est-ce vivable ? Et n'est-ce pas alors le moment de s'écrier « Ô vertu, que de crimes on commet en ton nom ?» La radicalisation du mal et l'obscurcissement du bien sont ainsi, en définitive, ce qui empêche sans doute de penser et le bien et le mal dans leur expression ordinaire, dans leur application simple ou dans la transgression des règles communes du vivre ensemble. L'extraordinaire confusion des valeurs renvoie chacun à l'appréciation individuelle de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ceux qui sont le plus exposés à la tentation du mal faire à s'exonérer eux-mêmes de la soumission à ces critères. C'est ce qui amène mon ami Marcel Gauchet, en réfléchissant au fonctionnement déréglé de ces valeurs, à soutenir que la fracture sociale se double d'une fracture morale, que c'est peut-être dans les profondeurs de la société que se réfugie encore une culture du bien, et que c'est l'incapacité des politiques à se faire entendre des milieux populaires qui se joue sans doute d'abord sur le terrain moral. Entre ce qui est devenu un mal mythique et ce qui est devenu un bien introuvable, ne faut-il pas, tout simplement, revenir aux données de base les plus élémentaires, mais fondamentales. Je les ai trouvées, pour ma part, merveilleusement exprimées dans un court paragraphe de Jean-Jacques Rousseau, où tout est dit. Il s'agit de l'exorde d'une lettre sur la vertu adressée à un destinataire inconnu, peut-être même jamais envoyé, récemment exhumé, par Jean Starobinski. Je vous le livre pour sa beauté de langue, d'abord. Ensuite, parce qu'il ne manque pas de sel de la part d'un homme lui-même si peu vertueux. Enfin, parce que derrière son apparente simplicité, il ouvre des abîmes de réflexion sur les rapports de la connaissance et de l'expérience et, partant pour un historien, sur les rapports du savoir et de la mémoire. Le voici pour finir. Vous cherchez à m'embarrasser plus qu'à vous instruire en me demandant qu'est-ce que la vertu. Je pourrais vous dire en deux mots que c'est ce que nul ne peut apprendre que de soi-même et ce que vous ne saurez jamais si votre cœur ne vous a répondu d'avance. D'ailleurs, pourquoi renouveler une question si souvent et si bien résolue ? Ouvrez Platon, Cicéron, Plutarque, Épictète, Antonin. Faites mieux encore. Étudiez la vie et les discours du juste et méditez l'Évangile. Ou plutôt, laissez là tous les livres. Rentrez en vous-même. Écoutez cette voix secrète qui parle à tous les cœurs et soyez vertueux pour savoir ce que c'est que de l'être.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie française du jeudi 30 novembre 2006, au cours de laquelle Yves Pouliquen, directeur en exercice et membre de l'Académie française, a pris la parole sur les prix littéraires. Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle, a prononcé un discours sur la langue française, langue de la modernité. Et Pierre Nora, directeur de la séance, a prononcé un discours sur la vertu.